chers amis, chers membres de l'association franco-écossaise, nous sommes réunis pour une conférence ce soir du professeur Gilles Lédier, qui nous vient de Toulon, que je remercie très chaleureusement ce soir d'avoir fait le voyage pour nous parler d'un thème éminemment d'actualité et éminemment intéressant pour l'avenir de l'Écosse et plus largement l'avenir des îles britanniques. Alors, comme vous le savez, il s'agit de l'avant-dernière conférence du semestre, notre dernière conférence ayant lieu le 17 juin, qui est une séance de projection d'un film qui est sorti en 2024, qui s'appelle The Outrun. C'est un film allemand, mais qui traite notamment, qui se passe en Écosse, donc ça nous changera un petit peu des conférences plus universitaires ou plus académiques qu'on a eues cette année. Alors, quelles sont les dernières actualités de l'association? Donc, vous avez peut-être été informé du fait que je pars à Aberdeen la semaine prochaine à l'invitation du maire d'Aberdeen et de l'évêque d'Aberdeen pour faire une grande conférence le 29 mai. Sur ma thématique de recherche sur William Byrne, architecte sur lequel j'ai écrit une monographie, Byrne et l'identité nationale au 19e siècle et l'invention du style revivaliste baronial écossais. Voilà, alors donc cette conférence aura lieu à l'université d'Aberdeen dans le Elphinstone Hall. Et il s'agit d'une invitation en retour des célébrations que nous avons accueillies ici, vous vous souvenez, au mois de septembre, qui visait à célébrer le 700e anniversaire de l'achat de la ferme de Grisy, dont les revenus étaient utilisés pour soutenir les étudiants écossais qui venaient étudier la théologie à l'Université de Paris depuis le Moyen-Âge. Donc la ferme qui a existé jusqu'en 1942, moment où elle a été vendue dans des circonstances un petit peu obscures. Donc voilà, donc c'est en réciprocité que les Écossais m'invitent. Donc grand événement puisqu'il y aura l'évêque, le maire, il y aura le député Christian Allard, le consul de France et même le joueur de cornemuse de Sa Majesté. Voilà, donc je ne manquerai pas de passer vos amitiés aux Écossais et aux membres de la Franco-Scottish Society, qui, comme vous le savez, a été fondée en 1895, à peu près 6 mois avant l'association franco-écossaise. Alors, pour ceux qui souhaiteraient d'ores et déjà noter les dates de nos prochaines conférences l'an prochain, toutes les dates sont inscrites sur le site de l'association. France-Écosse que j'actualise dès que j'ai une information, je la mets en ligne. Et l'enregistrement de la conférence de ce soir sera également prochainement mis en ligne. Et je remercie Gilles à nouveau d'avoir bien voulu que cette conférence soit enregistrée. Alors ce soir, nous nous intéressons à la vie politique écossaise aujourd'hui. Cette conférence a été prévue de longue date avec Gilles, dès l'annonce l'an dernier de la date des élections, le 7 mai dernier. Et vous avez certainement vu que ces élections au Parlement de Holyrood ont été organisées en même temps que les élections locales en Angleterre et les élections au Parlement gallois, le Synod. Voilà, donc ces élections, globalement, elles font apparaître une très grande fragmentation de la vie politique britannique, puisque les deux grands partis ont accusé un recul très significatif en Angleterre au profit de Reform, des Greens et des libéraux-démocrates. Et qu'en Écosse, finalement, le parti nationaliste, certes minoritaire, a remporté une majorité, alors qu'il y a à peu près un an, on aurait tablé sur une victoire des travaillistes. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent, notamment celle de l'avenir des deux partis. Est-ce que la vie politique britannique est désormais vouée à une profonde remise en question de cet ordre établi depuis les années 1840, finalement, qui est le bipartisme. Est-ce que désormais c'est la fin du bipartisme, alors que c'est une grande stabilité dans la vie politique britannique? Et quid de l'avenir de l'Écosse au sein du Royaume-Uni, puisque l'agenda politique du SNP, c'est de redemander le vote sur l'indépendance de l'Écosse? Voilà, alors pour nous parler de ces thèmes, il me reste à présenter Gilles, qui, comme je le disais, vient de Toulon, où il est spécialiste de civilisation britannique contemporaine, plus particulièrement du système politique britannique post-45, qui a travaillé pour de très nombreux numéros sur l'Écosse. Dès qu'il y avait une élection, à peu près, c'est toi qui as coordonné un numéro. Tu as fondé la revue l'Observatoire de la Société britannique, dont tu es toujours un membre très actif, un membre honoraire. Et je vous incite à lire cette revue qui est disponible en ligne et qui fait le point sur toutes les élections, sur les grandes thématiques qui concernent la Grande-Bretagne aujourd'hui. Tu es aussi dans le comité éditorial d'études écossaises. Et parmi les actualités, c'est l'organisation au mois d'octobre, avec Stéphanie Bory de Lyon, d'une journée d'études sur les élections de mai 2026. Voilà, avec une lecture parallèle de l'Écosse et du Pays de Galles. Voilà, je te laisse nous parler de ces thématiques intéressantes. Et ne te sens pas obligé de t'arrêter vraiment, même si après on pourra poursuivre les échanges autour d'un débat, d'une collation.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation de votre éminente société, de l'association France-Écosse, franco-écossaise, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer quelques années déjà, sous la présidence de Jacques Leruès, qui était mon directeur de thèse aussi, qui a beaucoup balayé ce champ de politique autour de l'Écosse, notamment en ouvrant avec son premier ouvrage qui était L'Écosse, une nation sans État. Il avait créé le concept en fait de nation sans État, et son dernier ouvrage actualisé après 20 ans de dévolution, c'était L'Écosse, vieille nation, jeune État. Bon, voilà, on voit toute l'évolution. Et merci à Clarisse pour tes mots si aimables d'accueil. Donc, l'objet, voilà, les élections au Parlement écossais du 7 mai 2026, que j'ai proposé comme thème à Clarisse dès que la date a été fixée. Bon, vous avez peut-être déjà suivi la campagne, peut-être les résultats. Clarisse en a dit déjà quelques mots très pertinents. On pourra en débattre ensuite lors des questions. Bon, je voudrais peut-être commencer par quelques rappels institutionnels et historiques sur que sont ces élections au Parlement écossais. Peut-être tout le monde n'a pas les mêmes informations dessus. Donc, pour rappel, ces élections au Parlement écossais étaient les septièmes du nom depuis le lancement de la dévolution qui était en 99. Donc, des élections tous les 4 ans ou 5 ans. Il y a eu 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2021, et c'était la septième. Depuis la création du Parlement dit de Holyrood. Comment les Écossais votent, c'est peut-être intéressant de le rappeler. Je rappelle qu'il y a deux votes, deux bulletins de vote, c'est-à-dire qu'il s'agit d'élire 129 députés du Parlement écossais, qu'on appelle Member of the Scottish Parliament, MSP. Deux tiers, c'est-à-dire 73, sont élus dans des circonscriptions au scrutin first past the post, majoritaire à un tour. Donc on vote pour des noms, pour des candidats. Et il y en a un gros tiers qui sont des députés MSP qui sont élus au scrutin à la proportionnelle sur des listes régionales. 56 députés répartis en 8 régions, 7 par région, donc 8 fois 7, 56. Voilà. Alors, c'est un scrutin mixte qui combine à la fois donc Scrutin majoritaire à un tour, où on vote pour une personne, et scrutin à la proportionnelle, où on vote pour un parti. Ça permet de combiner des choix qui peuvent être tactiques. Par exemple, dans votre circonscription, vous aimez bien votre député qui est élu au Parlement de Holyrood, même si vous ne partagez pas forcément ses convictions, mais vous votez pour lui parce que vous l'appréciez. Par contre, au scrutin de liste, si votre choix c'est le Labour, vous votez Labour, ou si c'est conservateur, vous votez conservateur, etc. C'est un scrutin mixte inspiré de l'Allemagne qui a été instauré pour éviter qu'un seul parti n'obtienne la majorité au Parlement de Holyrood. Éviter l'écrasante domination d'un seul parti sur la scène écossaise. Et effectivement, depuis le début de la dévolution, il y a eu une exception, 2011, où le SNP, le Scottish National Party, a réussi à avoir une majorité absolue, mais c'est la seule fois. Hein. Toutes les autres élections, aucun parti n'a pu avoir la majorité, donc il a fallu faire des coalitions pour essayer d'avoir la majorité. Rappelons aussi les prérogatives du Parlement écossais, hein, depuis la dévolution. Le Parlement écossais est responsable de l'essentiel des enjeux économiques, sociaux et culturels qui gèrent l'Écosse au quotidien. Question d'éducation, bien sûr, question de santé, les services publics, les transports, le développement économique, la culture, le sport, le tourisme. Tout le reste dépend du Parlement de Westminster, qui sont les compétences réservées, notamment la défense, les affaires étrangères, la monnaie, l'immigration. Sujet important, parce qu'on a beaucoup parlé dans cette élection en Écosse, mais ce n'est pas une compétence du Parlement écossais de gérer les questions migratoires. Hein. Bon. Voilà, et enfin, importance de ces élections, parce que les élections au Parlement écossais permettent aussi d'élire le futur leader de l'Écosse, le premier ministre, enfin le first minister, qui pourra s'appuyer sur sa majorité au Parlement écossais, former un gouvernement. D'accord. Petite historique ensuite, donc rapidement, depuis les premières élections en 99, je dirais qu'il y a deux périodes qui sont à distinguer, puisqu'il y a eu sept élections. Dans un premier temps, c'est le Parti travailliste qui a été dominant. C'est le Parti travailliste Labour qui a fait la dévolution sous Blair et Brown quand ils sont arrivés au pouvoir, avec Donald Dewar qui a été le premier Premier ministre écossais. À ce moment-là, les travaillistes étaient dominants. Et l'Écosse étant importante pour eux aussi au plan de la représentation à Westminster, ils ont accordé la dévolution à l'Écosse et ils pensaient logiquement aussi conserver le pouvoir en Écosse. Parce que le parti était majoritaire. C'est ce qui s'est passé au cours des deux premiers mandats, 1999-2007. Mais en 2007, les nationalistes, qui étaient le principal parti d'opposition, a pris le dessus sur les travaillistes et est devenu le premier parti d'Écosse. Et depuis 2007, les nationalistes du Scottish National Party ont gagné toutes les élections au Parlement écossais. 2007, 2011, 2015, 2021. La plupart du temps en étant minoritaire, mais une fois en étant majoritaire en 2011. En tout cas, c'est un épisode assez rare dans la vie politique britannique qu'un même parti conserve le pouvoir aussi longtemps. Depuis 2007, les nationalistes sont au pouvoir. Et effectivement, c'était un des enjeux de la campagne du 7 mai, de savoir si les nationalistes allaient pouvoir conserver le pouvoir. Donc, je rappelle, voilà, dans l'histoire du Parlement écossais, l'histoire des premiers ministres écossais, trois premiers ministres travaillistes qui sont succédés de 1999 à 2007, Donald Dewar, un an, Henry McLeish, un an, et Jack McConnell, 6 ans. Dewar, un an, malheureusement, il est décédé pendant son mandat d'une attaque cardiaque, remplacé par McLeish, travailliste, forcé de démissionner pour des raisons de malversation financière, remplacé par Jack McConnell. 7, 3 leaders travaillistes, 8 ans de domination travailliste. Et ensuite, les nationalistes, avec d'abord Alex Salmond, de 2007 à 2014, et puis Nicola Sturgeon, de 2014 à 2023, qui a démissionné, remplacé par Humza USAF, qui est resté un an, 2023-2024, qui a démissionné, et remplacé par John Sweeney depuis 2024. Donc John Sweeney était le First Minister sortant, nationaliste, qui remettait en jeu son mandat en tant que leader du gouvernement écossais et aussi leader du Parti nationaliste écossais. Quelques mots sur les enjeux et le contexte de ces élections. Dans quel contexte ces élections sont-elles passées? Quels étaient les enjeux? Moi, j'en distinguerai quatre enjeux principaux. Première question qui se posait, c'était, comme je l'ai dit, vu que les nationalistes dominent la scène politique écossaise depuis 2007 sans interruption, dans quelle mesure cette domination exceptionnellement longue allait-elle se poursuivre? Voilà. Les nationalistes allaient-ils pouvoir conserver le pouvoir après 19 ans de gestion sans discontinuité? Alors, rappelons quand même que leurs rivaux traditionnels, c'était les travaillistes, que les travaillistes avaient gagné les élections législatives générales de juillet 2024 au Parlement britannique. Keir Starmer était devenu Premier ministre. Mais lors de ces élections, en Écosse, les travaillistes avaient nettement dominé les nationalistes. D'accord ? Pour la première fois depuis 2015, je crois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Parlement de Westminster, le groupe de députés écossais, qui est d'une soixantaine, il y a beaucoup plus de travaillistes que de nationalistes. D'accord ? Donc vous pouvez penser que les travaillistes avaient le vent en poupe, puisqu'ils avaient repris le pouvoir à Londres, à Westminster, ils avaient peut-être le vent en poupe pour reprendre le contrôle du Parlement, écossais. Alors, les nationalistes, je pense, étaient sur la sellette parce que le SNP, je pense que c'est la première élection où, depuis 1999, que les nationalistes ont véritablement été interrogés, questionnés sur leur bilan. Sur leur bilan en tant que gestionnaire de l'Écosse au quotidien. J'ai l'impression que les précédentes élections, ce n'était pas le cas. Les nationalistes disaient, nous, on est le parti naturel des Écossais, en fait. We stand for Scotland. C'est logique que vous votiez pour nous. En plus, on veut l'indépendance de l'Écosse, on veut votre bien. Et en plus, ils étaient dotés, à mon avis, de leaders assez entraînants, assez charismatiques, que ce soit Alex Salmond ou Nicola Sturgeon. Avec John Sweeney, c'est un peu différent. C'est un leader un peu plus gris, un peu plus terne, un peu plus, disons, au profil gestionnaire. Voilà. Donc c'était un vrai test pour les travaillistes et ils devaient répondre de leur bilan, sachant que l'Écosse n'est pas épargnée par les problèmes économiques et sociaux. Comme tout le Royaume-Uni, les problèmes pour les Écossais en termes de pouvoir d'achat, en termes de qualité des services publics, mais aussi des débats sur l'Europe, sur les enjeux migratoires, le pétrole, le gaz, sur l'économie. Pendant la campagne, on a vu notamment plusieurs articles d'intervention d'économistes qui ont mis l'accent sur les difficultés actuelles de l'Écosse en termes budgétaires. Donc, je dirais que pour ces élections, pour la première fois, les nationalistes allaient être jugés peut-être sur leur bilan peut-être qu'ils ne pourraient pas s'en sortir en disant si l'Écosse a des problèmes, c'est la faute de Londres, du gouvernement britannique, ou c'est peut-être que la dévolution complique un peu la chose et ce serait mieux l'indépendance. Ouais. Voilà. Alors, deuxième enjeu, selon moi, de ces élections, deuxième élément de contexte, c'est le fait que ces élections sont des élections, certes, pour élire le Parlement écossais, mais ce sont aussi des élections qui s'inscrivent dans un cadre britannique, c'est-à-dire c'est des élections à mi-mandat, 2 ans après la victoire des travaillistes à Londres. Et on sait comment se passent ces élections à mi-mandat. C'est souvent, parfois, un vote. On vote localement, mais on vote aussi pour ou contre ce qu'a fait le gouvernement central. Hein, il y a un vote sanction, un vote. On le voit, nous, par exemple, dans nos élections régionales ou les élections européennes. Quand on vote aux élections européennes, hein, l'enjeu, ce n'est pas toujours l'Europe, c'est aussi des fois envoyer un message pour le gouvernement central. Donc, la question, c'était quel allait être l'impact de la situation politique britannique sur ces élections locales en Écosse. Notamment la grande impopularité du gouvernement travailliste à Londres. Quel impact cela allait-il avoir sur le vote des Écossais? Et, indication très claire, pendant la campagne, le leader des travaillistes écossais, M. Sarwar, a appelé Keir Starmer à la démission. Il a dit, on n'en peut plus du gouvernement travailliste, M. Starmer doit démissionner, il ne fait pas une politique de gauche, il ne fait pas une politique pour l'Écosse. Donc, le leader des travaillistes écossais a essayé au maximum de se distancier de Starmer pour dire, nous, on peut réussir l'alternance en Écosse, on peut proposer un changement, améliorer les choses, mais ce ne sera surtout pas ce que fait M. Starmer au niveau britannique. Vous voyez? Donc, on sait qu'il y a beaucoup de déceptions à l'heure actuelle vis-à-vis du gouvernement travailliste. Est-ce qu'il y allait avoir un vote sanction? Comment cela allait-il se manifester? Et par ailleurs, la vie politique britannique depuis 2-3 ans est caractérisée aussi par la montée en puissance d'un parti, le parti Reform UK de Nigel Farage, d'accord, qui se situe, on va dire, sur une ligne populiste, de droite, radicale, anti-immigration, anti-européenne, bon, anti-élite. Jusqu'à présent, M. Farage avait donné à son parti une connotation assez anglaise. A obtenu des succès certains en Écosse, en Angleterre, pardon, et au pays de Galles. La question, ça a été de savoir dans quelle mesure Reform UK allait-il faire une percée en Écosse, s'adapter au contexte écossais. C'est-à-dire dire, mais aussi, on est un parti qui parle pour l'Écosse, on est un parti écossais. Rappelons que aux dernières élections au Parlement écossais en 2021, Reform UK était complètement absent, n'existait pas, invisible. Et même encore il y a 2 ans aux élections législatives britanniques, le Parlement de Westminster, Reform UK avait fait que 7%. Donc, résultat, c'est négligeable. Par contre, ce que montraient les sondages depuis 2 ans, c'est extrêmement frappant. Depuis la date d'arrivée de Keir Starmer à la tête du gouvernement londonien, il y a 2 ans, vous aviez dans les sondages les travaillistes et les nationalistes qui étaient à égalité et Reform qui était pratiquement inexistant. Et depuis 2 ans, Reform n'a cessé de monter dans les sondages en Écosse. Et les travaillistes ont cessé de descendre. Et les nationalistes sont restés stables. Donc la question, ça a été de savoir comment cela allait-il se matérialiser dans les urnes. Autre enjeu, troisième enjeu, Clarisse en a parlé, bien sûr, c'est quelle allait être la place dans ces élections de la question écossaise, la question constitutionnelle, l'avenir de l'Écosse. Bon, on sait que pendant 10-12 ans, le débat politique écossais a été complètement polarisé autour de la question constitutionnelle. À partir de 2011, quand le SNP a obtenu une majorité absolue. Ensuite, il a pu négocier avec le gouvernement Cameron l'organisation du référendum sur l'indépendance. Après, il y a eu une longue campagne de 2 ans autour de l'indépendance. Mais ensuite, le débat a continué après, même si le vote a été 55% pour rester dans l'Union. Ça n'a cessé je dirais, de 2011-2012 jusqu'en Récemment, en 2022-2023, le débat écossais a été complètement focalisé par la question de l'avenir de l'Écosse au plan institutionnel, avec un clivage très fort entre les pro-indépendance d'un côté et les pro-union, les unionistes de l'autre. Le clivage s'incarnait beaucoup en termes d'affiliation partisane entre d'un côté le SNP, de l'autre côté le Parti conservateur au pouvoir. Et une opinion très clivée. Et encore aujourd'hui, si vous regardez les sondages sur la durée, vous avez toujours 48-50% des Écossais qui sont pour l'indépendance. 50-51% des Écossais qui sont pour l'Union. C'est stable depuis un an ou deux. Bon, la question c'est dans quelle mesure cet enjeu de l'avenir institutionnel de l'Écosse intervient-il dans ces élections, sachant que depuis 2-3 ans, depuis la démission de Nicola Sturgeon, on a assisté un peu, le débat s'est un peu calmé, on a assisté au retour des thèmes économiques et sociaux, bien sûr, qui comptent aussi, notamment avec la victoire des travaillistes, la question des services publics, la question du pouvoir d'achat, la question de l'économie, de la croissance. Bon, voilà. La santé, bien sûr. La santé, l'éducation, enfin, des enjeux que gère aussi le Parlement, écossais. Alors, exemple de la place de ce débat dans la campagne, c'est que les nationalistes ont promis que s'ils arrivaient en tête, eh bien, ils allaient essayer d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance. Et que le premier projet de loi qu'ils présenteraient au Parlement écossais serait un projet, voilà, sur l'indépendance. Tout en sachant très bien qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir ce référendum. Puisque c'est uniquement le gouvernement britannique qui peut autoriser la tenue de ce référendum. Et que la Cour de justice britannique a, encore une fois, démontré en 2022 que non, le Parlement écossais n'a pas le pouvoir de décider d'organiser un référendum sur l'indépendance. Voilà, enfin, un quatrième thème, bien sûr, un quatrième enjeu de ces élections important, c'est au-delà de l'élection des MSPs, il y a aussi le futur FM, First Minister. C'est-à-dire, les Écossais élisent 129 députés, une majorité ou une coalition majoritaire qui va ensuite porter au pouvoir un leader et un gouvernement. Donc, comme a priori aucun parti ne peut avoir la majorité absolue au Parlement écossais, après il y a forcément des tractations entre partis pour faire une coalition majoritaire, pour désigner le Premier ministre. Ou alors, le parti qui arrive en tête va constituer un gouvernement minoritaire en obtenant le soutien sans participation d'un autre parti. C'est passé à plusieurs reprises, par exemple, les travaillistes ont eu le soutien des libéraux-démocrates quand ils ont gouverné l'Écosse au début de la dévolution. Et ensuite, les nationalistes, récemment, se sont appuyés avec un pacte avec les Verts pour faire une coalition majoritaire. Bon. Coalition avec les Verts qui, d'ailleurs, a échoué en 2024. Donc là, bon, on peut penser que, vu les résultats, les nationalistes vont à nouveau gouverner l'Écosse, comme ils sont le premier parti, tout en étant minoritaires, mais en obtenant un soutien tacite des Verts pour faire passer leur loi. Quelques mots sur la campagne électorale, bon, rapide. Bon, cette campagne, elle a été généralement décrite comme peu enthousiasmante, peu inspirante. Il semble qu'un certain nombre d'Écossais se soient désintéressés du vote, même s'ils se sentaient concernés par par les enjeux. Par exemple, le leader écossais John Swinney, il a été beaucoup interpellé sur les problèmes sociaux, les problèmes de santé, la gestion des services publics. Bonjour. Mais Encore une fois, ce qui a été frappant, c'est que il n'y a pas eu une confrontation d'idées, il n'y a pas eu de débat vraiment sur la meilleure façon de gérer l'Écosse. Alors que ce devait être le propre de ces campagnes, et parce que c'est les compétences du Parlement écossais. Alors il y a eu certes des propositions, mais il n'y a pas véritablement eu de contre-propositions, de débats contradictoires sur comment mieux faire fonctionner l'économie écossaise, comment mieux gérer les services publics, comment mieux gérer le secteur de la santé, de l'éducation. Hein. Par exemple, je vous l'ai dit, les travaillistes sont surtout centrés sur l'idée, nous sommes naturellement les plus compétents pour diriger l'Écosse parce que nous sommes le parti de l'Écosse. Et par ailleurs, nous proposons, nous promettons un nouveau référendum sur l'Écosse, alors que ce n'est pas la compétence du Parlement écossais. Mais par exemple, Reform a fait campagne presque exclusivement sur le thème de l'immigration. D'accord? C'est-à-dire non aux demandeurs d'asile, fermeture des hôtels qui accueillent les réfugiés, non à l'immigration légale ou illégale, bon, non aux bateaux qui traversent la Manche, mais ils n'arrivent pas à l'Écosse, hein, ces bateaux. Et puis encore une fois, l'enjeu de l'immigration, ce n'est pas une compétence du Parlement écossais. C'est une compétence du gouvernement britannique, du Parlement de Westminster. Reform a fait d'ailleurs une campagne assez chaotique parce qu'il y a eu beaucoup de démissions de candidats, il y a eu des révélations sur le racisme de certains candidats dans les médias sociaux, notamment Reform a attaqué le leader travailliste, M. Sarwar, qui est un musulman d'origine pakistanaise, bon, avec une approche très raciste, alors que bon. Voilà. Je dirais que, encore une fois, il y a quand même eu beaucoup d'alertes données par des spécialistes, universitaires, experts, économistes, sur la situation budgétaire compliquée de l'Écosse, le déficit budgétaire du Parlement écossais, des dysfonctionnements dans les services publics, la faible croissance, la stagnation de l'économie, le fait que la population écossaise vieillit, hein, le vieillissement démographique, une population vieillissante mais aussi déclinante. Ces alertes, ces thèmes de débat n'ont pas été réellement repris par les différents partis. Alors, on peut peut-être en venir aux résultats. Les résultats, bon, vous les connaissez peut-être. Donc, le SNP est arrivé en tête avec 58 MSPs, moins 2. Petit recul en termes de sièges, passe de 60 à 58, mais bon, il reste le premier parti écossais, suivi par Labour, 17 députés, et Reform, 17 députés aussi. Ensuite, les Verts, 15 députés, les Conservateurs, 12, et les Libéraux-Démocrates, 10. Donc, SNP, 58, Travailliste, 17, Reform, 17, Verts, 15, Conservateurs, 12, Libéraux-Démocrates, 10. Donc en fait, vous avez toujours le SNP qui arrive en tête, nettement. Il n'atteint pas la majorité absolue à Holyrood, qui est de 65, hein, pour 129, la majorité c'est 65, donc 58 sur 65, bon, il n'est pas la majorité absolue, mais enfin, il est de loin le premier parti d'Écosse au Parlement. Par exemple, le score du SNP, 58 députés, c'est plus que les travaillistes, plus les conservateurs, plus les verts, plus les libéraux-démocrates réunis. D'accord? Quatre autres partis, on va dire, traditionnels. Le score brut du SNP n'est pas extraordinaire. Il fait 38% au premier scrutin de circonscription et 28% au scrutin de liste. Bon, c'est un de ses plus faibles scores réalisé depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017. Mais il est en tête dans toutes les régions, il est implanté dans toute l'Écosse, il y a des figures connues, donc Au scrutin de circonscription, il est bien positionné. Et par ailleurs aussi, même si son résultat est moins bon que précédemment, il a sans doute bénéficié, le SNP, de la fragmentation de l'opposition, qui est complètement éclatée. Parce que si vous voulez remettre en question la domination du SNP, c'est bien d'avoir une opposition formée d'un seul parti. Comme quand il y avait les conservateurs, travaillistes, travaillistes, conservateurs. Mais quand vous avez une opposition qui est éclatée entre travaillistes, libéraux démocrates, conservateurs et maintenant réformes, en fait, le vote anti-SNP se divise. Et dans le scrutin majoritaire à un tour, vous avez peu de chances de gagner des circonscriptions. Rappelons qu'il y a un seul tour. Le premier arrivé, first past the post, premier en tête, remporte la circonscription. Donc vous pouvez remporter une circonscription avec 30% des voix, si les autres partis font 20, 15, 12, etc. Bon, c'est vraiment ce qui s'est passé là. Ce qui fait qu'on peut dire que la domination du SNP est moins forte qu'avant, qu'il bénéficie du vote tactique, du mode de scrutin, de la fragmentation de l'opposition, mais il demeure toujours le parti dominant. Et bien sûr, il va former le futur gouvernement. Donc John Sweeney va rester Premier ministre, First Minister, va former son gouvernement et le SNP va continuer à gouverner l'Écosse. Et ils vont continuer à pouvoir s'appuyer sur le soutien implicite des Verts. Les Verts, avec 15 députés, les Verts progressent nettement, ils doublent leur score de députés. Même s'ils ne constituent pas un pacte nationaliste vert, sur la plupart des mesures proposées par le SNP, les Verts soit soutiendront, soit s'abstiendront. Et le SNP pourra continuer de faire passer sa politique. Entre parenthèses, remarquons que SNP 58 députés, Vert 15, ça fait 73 sur 129, ça veut dire qu'il y a une large majorité pro-indépendance à Hollywood. Parce que les Verts sont pro-indépendance. Donc il y avait déjà une majorité pro-indépendance dans le précédent Parlement écossais, elle est encore plus forte. Que vont en faire ces deux partis? Sais pas, mais c'est sûr que la première proposition de Sweeney, c'est de dire, première réunion du Parlement de Holyrood, je propose un vote, une motion, un projet sur un nouveau référendum sur l'indépendance. Bien sûr, ça va être voté. Mais bon, on sait que ça ne pourra pas aller plus loin. Les autres partis, alors, les deux partis traditionnels, travaillistes et conservateurs, c'est un gros échec. Pour les travaillistes, c'est même une humiliation parce qu'ils pensaient réellement contester la mainmise des nationalistes sur le Parlement écossais, sachant qu'ils avaient gagné une majorité aux élections britanniques de 2024. Ils avaient gagné une élection partielle à Hamilton en 2025. Bon. Mais ils ont vraiment plongé. Et l'humiliation suprême, c'est de ne pas avoir réussi à dépasser Reform. Ils sont à égalité avec Reform. 17 députés chacun. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent même pas prétendre, les travaillistes, qu'ils vont incarner l'opposition. Donc l'opposition officielle, elle est coupée en deux. Et même au plan formel, les deux partis qui se détestent, Labour et Reform, vont devoir partager le temps de parole, le temps de questionnement, hein, les questions au Premier ministre, etc. Donc, on a l'impression que pour les travaillistes, c'est vraiment c'est pas la catastrophe absolue comme au Pays de Galles, hein, qui s'est passé au même moment, mais c'est quand même un désastre. Et pour les conservateurs, que dire? C'est pas une humiliation, c'est un collapse. C'est 6% des voix, 12 sièges sur 129. Alors qu'il y a une dizaine d'années, ils pouvaient prétendre être le second parti d'Écosse, à égalité avec les travaillistes, portés par leur campagne pro-union. D'accord? Ils défendaient, ils incarnaient le camp de l'union. Voilà. Reform. Alors, Reform réussit sa percée, moins qu'en Angleterre, au pays de Galles. Il gagne aucune circonscription, aucune des 73 circonscriptions. Parce que là, ils ne sont pas assez implantés, ils ont trop d'hostilité, leurs candidats sont pas très populaires, leurs leaders sont pas très bien appréciés, que ce soit Farage en Angleterre ou Malcolm Hofford, le leader de Reform en Écosse, qui est un milliardaire financier, ancien père conservateur, qui n'est pas très très populaire. Mais Reform a réussi sa percée en prenant des voix aux travaillistes et aux conservateurs. Chez les travaillistes, Reform a attiré un électorat populaire, déclassé, déclassé. Et chez les conservateurs, il a attiré un électorat plus aisé et radicalisé. D'accord? C'est ces deux électorats, voilà, qui ont fait défaut aux conservateurs et aux travaillistes, qui ont fait le succès, qui ont fait le succès de Reform. Sur un programme, encore une fois, très, très vague, hein. Anti-immigration, anti-système, anti-establishment, éviter de tous. Mais finalement, Reforms, en se présentant comme le parti anti-establishment, se présentait implicitement comme le concurrent direct du SNP. Parce que le SNP, après 19 ans de pouvoir en Écosse, qui est l'establishment maintenant en Écosse? C'est le SNP qui est au pouvoir, d'accord, qui gère l'Écosse depuis 19 ans. Donc, Reform a joué sur cette dynamique. Nous sommes le contre-pouvoir au SNP. Mais sans dire beaucoup sur son programme, si ce n'est réduction massive d'impôts, politique très dure de lutte contre l'immigration, bon. Et puis aussi une forme de guerre culturelle, enfin un petit peu sur le mode trumpiste, hein, donc anti-woke, et puis aussi anti-environnement, enfin contre le projet net zero, bon, drill, hein. Il faut forer, il faut forer, il faut reprendre l'exploitation, pétrole, du gaz, etc. Parce que ça, c'est vraiment écossais, ça, c'est vraiment l'identité écossaise. Voilà, les travaillistes aussi, pardon, les Verts s'en sont bien sortis, ils ont bien progressé, ils ont doublé leur score. Ils ont bénéficié sans doute de la popularité de leur nouveau leader à l'échelle britannique, hein, Zach Polanski. Même si ils ont un leader complètement différent en Écosse, et encore une fois, les Verts écossais sont pour l'indépendance, hein, de l'Écosse, ils sont contre l'Union. Et je dirais que les Verts ont attiré un électorat qui auparavant était chez les travaillistes, c'est-à-dire un électorat jeune, urbain, voilà, qui est sur une ligne politique assez proche des travaillistes et des nationalistes, c'est-à-dire centre-gauche, enfin social-démocrate, hein, pro-européen, mais voilà, une catégorie de des électeurs qui ne se reconnaissent plus dans le parti travailliste. Bien. Enfin, les libéraux-démocrates gardent leur position forte dans les Highlands. Surtout un parti établi dans les Highlands et les Islands, un parti de. Ils ont quelques notables, quelques figures notabilières remarquables, compétentes, qui leur permettent de gagner des circonscriptions, une dizaine de circonscriptions dans le nord de l'Écosse. Et peut-être il y a eu là aussi une déperdition du vote travailliste vers les libéraux-démocrates. Donc voilà le paysage tel qu'il apparaît aujourd'hui. Tel qu'il apparaît aujourd'hui. Alors, peut-être en guise de conclusion, pour amorcer une conclusion, après on pourra développer dans la discussion. J'avais intitulé ma conférence, quand Clarisse m'a demandé un titre, Rupture et continuité. Bon, c'est un peu la tarte à la crème, mais bon, c'est Ça colle quand même à ce qui s'est passé, hein. Alors, je vais essayer de serrer les éléments de continuité, les éléments de rupture. Alors, les éléments de continuité par rapport à la donne précédente. Premier élément de continuité, je dirais, c'est la participation, qui reste peu satisfaisante. 53%. C'est-à-dire, il y a pratiquement un Écossais sur deux qui ne s'est pas senti concerné par l'élection, qui n'est pas allé voter. Mais c'est la règle moyenne de toutes les élections depuis 1999, 53%. Des fois, on est descendu à 50%. Certes, à la dernière élection, en 2021, mais c'était juste après le Covid, bon, peut-être elle était exceptionnelle, on était monté à 60%, 63%. Là, on est redescendu à 53%. Bon, ce n'est pas satisfaisant, bien sûr, mais bon. Donc, on est dans la moyenne des élections au Parlement écossais, donc on est dans la continuité. Élément de continuité, deuxième élément, bien sûr, c'est le fait que la SNP va continuer de gérer l'Écosse en tant que gouvernement minoritaire. Et c'est quand même un exploit assez remarquable en termes de longévité. Troisième élément de continuité, il y a toujours une majorité pro-indépendance au Parlement de Holyrood. C'est-à-dire une majorité de députés qui sont prêts à voter donc une loi pour l'indépendance, un projet pour l'indépendance, un référendum sur l'indépendance. En tout cas, c'est leur politique officielle, hein. Bien sûr, du SNP, mais des Verts aussi. Dans un contexte où l'opinion est divisée, mais l'indépendance, c'est moins un sujet que ce que c'était il y a 5 ans ou 10 ans. Alors, élément de rupture maintenant. Élément de rupture. Ben, premier élément de rupture, bien sûr, c'est que le bipartisme est mort, mort et enterré. Bipartisme, c'est fini. La domination des travaillistes et des conservateurs qui a duré jusque dans les années 70. Ensuite, la domination des nationalistes et des travaillistes qui, en gros, des années 80 ont. Jusqu'aux années 2010. Non. Aujourd'hui, l'Écosse, c'est le multipartisme. Comme en Angleterre, comme au Pays de Galles, hein, c'est la même situation. Sauf que par rapport à l'Angleterre, il y a en plus un parti dominant qui est le parti nationaliste. Une participation réduite, mais. Un paysage politique complètement éclaté. Et le seul qui apparaît pouvoir être un point de repère dans ce paysage éclaté, c'est le SNP. Parce qu'il domine quand même assez nettement et c'est un point fixe, un point de stabilité. Maintenant, les conservateurs, ces élections, ils ont pratiquement disparu de la carte. Travaillistes, ils sont en chute libre. Les libéraux se maintiennent, les verts remontent, et Reform progresse. Mais bon, vous voyez, ils ont des scores assez comparables, hein. 10, 12, 15, 17, les cinq autres partis députés. Mais les nationalistes, 56. Donc, autre élément de rupture, c'est bien sûr cette fragmentation de l'électorat. L'électorat écossais aujourd'hui, il est fragmenté et il est volatile. Il est volatile. D'une élection à l'autre, il va changer. C'est fini de soutenir les conservateurs ad vitam aeternam ou les travaillistes ad vitam aeternam. Bon, là, beaucoup de conservateurs ont voté Reform pour essayer Reform. Beaucoup de travaillistes déçus par les travaillistes ont voté Reform. Ils sont partis vers les Verts ou les libéraux-démocrates. Bon. Il y a beaucoup de fluidité, de volatilité, d'instabilité. Voilà. C'est la caractéristique du paysage aujourd'hui. Et enfin, un dernier élément de rupture, mais si on envisage l'avenir, et peut-être je terminerai par là, Il n'est pas lié à l'Écosse, il est lié à la situation au Pays de Galles. C'est que pour la première fois dans l'histoire du Pays de Galles, les travaillistes ont perdu les élections, alors qu'ils avaient gagné toutes les élections depuis les 100 dernières années, ils n'avaient perdu aucune élection. Et le parti nationaliste gallois, Plaid Cymru, est arrivé en tête et va gouverner le Pays de Galles. Ce qui veut dire que pour la première fois de l'histoire du Royaume-Uni, vous avez trois partis nationalistes, oui, qui défendent le nationalisme, pas le nationalisme ethnique, le nationalisme civique, progressiste, hein, mais vous avez le SNP en Écosse, vous avez Plaid au Pays de Galles, et vous avez Sinn Féin qui est au pouvoir à Belfast. Ils dominent la scène irlandaise, même s'ils partagent le pouvoir avec le parti protestant. Mais Sinn Féin est devant. Donc, pour la première fois, vous avez trois partis nationalistes qui revendiquent, tous les trois, à des titres divers, hein, un large degré d'autonomie, de distanciation, de différenciation de la périphérie dite celtique par rapport à la norme londonienne. Alors, ça peut aller de. Dans le cas du Pays de Galles, c'est. On veut beaucoup d'autonomie, on veut beaucoup plus de dévolution, on veut beaucoup plus de langue galloise, de culture galloise, etc. Et, disons, ce qu'on appelle les Indie Curious, la Indie Independence Curiosity au Pays de Galles, c'est à peu près 30-35% quand même. Bon, en Irlande, on sait que la situation est aussi. Peut être compliqué par le fait que désormais il y a démographiquement il y a une majorité de catholiques en Irlande du Nord, que le Sinn Féin est au pouvoir aussi à Dublin, enfin non, est une partie importante de Dublin, et que donc l'objectif de Sinn Féin c'est la réunification de l'Irlande. Et en Écosse, vous avez un parti nationaliste. D'ailleurs, les trois sont pro-européens. Tous les trois sont pro-européens et vont suivre de près l'enjeu. Qu'est-ce qui va se passer avec le Brexit? Est-ce que le gouvernement britannique va faire une inflexion, va dire on revient vers l'Europe, bon, pour l'instant ils disent oui, on essaie de rebâtir une relation importante avec l'Europe, mais bon, ça suffira pas au SNP, à Plaid, à Sinn Féin. Hein. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est, par exemple, le SNP, ce qu'ils souhaitent, ils souhaitent qu'une chose, c'est que l'Écosse revienne dans le marché unique. L'Écosse revient au marché unique. Et tout leur discours à l'heure actuelle, au SNP, c'est le Brexit est une calamité économique pour l'Écosse. Bon, c'est un discours qu'on entend un peu partout, hein, au Royaume-Uni, que le Brexit était une erreur économique. Mais le SNP l'utilise au maximum pour montrer que, par le Brexit, l'Écosse perd des emplois, perd des débouchés, perd des marchés, perd de la croissance, etc. Donc, on peut pronostiquer, et ça a été la première intervention de John Swinney. Bon, il appelle les gouvernements gallois dirigés par PC et le gouvernement nord-irlandais dirigé par Sinn Féin à se concerter, à collaborer, à avoir des stratégies communes pour mieux faire entendre le poids de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord face à un pays qui reste très centralisé, un pays auquel le gouvernement travailliste de Tony Blair avait promis quand même une réforme institutionnelle, plus de décentralisation, enfin bon, je ne savais pas trop comment, mais bon. Voilà, et pour l'instant, donc, la périphérie n'a rien vu venir. Donc c'est un enjeu, forcément, l'organisation territoriale du Royaume-Uni, le rapport entre le centre et la périphérie, cet enjeu va forcément revenir sur le devant de la scène dans les années qui viennent. Alors, ça ne va peut-être pas revenir sous la forme d'un référendum, d'un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Mais comment s'articule le pouvoir entre Londres, entre l'Angleterre et puis Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord? Forcément, ça va revenir sur le devant de la scène suite à cette rupture quand même importante. Voilà. Merci beaucoup.
Gilles, je suis sûre que ton intervention va susciter des interrogations parmi notre public de ce soir. Je laisse la parole. Je vous laisse la parole. J'éteins l'enregistrement.
Avec plaisir. Magie.
Ouais. fait de l'illusion, ou est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment pro-européen? Et si oui, comment expliquer donc quand même Reform réussisse à avoir de tels scores en Écosse? Ça pour moi c'était une surprise, une mauvaise surprise aussi, parce que on imagine bien que là, avec 17 députés et tous les moyens qui vont avec, ils pourraient vraiment s'enraciner dans le paysage écossais, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc voilà, est-ce que la place de l'Europe pendant la campagne, et puis est-ce qu'il y a une importation? Bon, le fond, c'est UK plus une autre apparence, mais c'était avant tout l'expression d'un nationalisme anglais, effectivement, avec des discours très anti-immigrés, etc., qui n'existait pas tellement en Écosse. Est-ce que là, on voit aussi l'importation de ces thématiques plutôt anglaises, on va dire, et ce discours donc anti-immigré, cette insularité très forte, quoi, qui n'était pas particulièrement écossaise jusqu'à présent.
Oui, je suis d'accord avec toi. Non, il y a deux enjeux, hein. Il y a deux questions importantes. Il y a l'Europe et il y a la réforme. Sur l'Europe, il ne faut pas surestimer le sentiment pro-européen des Écossais. Ce n'est pas non plus l'amour fou. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un consensus politique transpartisan qui s'est créé en Écosse et dans l'opinion au cours des 3-4 dernières décennies sur l'idée que être écossais, l'identité écossaise, n'était pas incompatible avec l'environnement européen. Au contraire. On est écossais, très bien, mais on est aussi britannique, mais on est aussi européen. Tout le contraire de ce qui s'est passé chez certains nationalistes anglais au moment du Brexit. Hein. L'idée que l'identité nationale anglaise forcément devait s'exprimer par les sorties de l'Europe. Donc il y a ce consensus pro-européen, et je dirais ça part de... Le SNP, quand dans les années 80, il lance le slogan « Independence in Europe ». Ça part de là, hein. Ils envisagent l'indépendance au sein de l'Europe. Et après, on va pas refaire le débat. On a écrit beaucoup de choses sur le sujet. Bon, l'Écosse apporte beaucoup au plan financier, à l'Écosse, des ressources que ne donnait plus Londres, etc. Bon. Ensuite, avec la dévolution, qu'est-ce qui s'est passé là? Sous les gouvernements travaillistes, l'Écosse s'est présentée comme une super région européenne. C'est vendu comme ça, une super région au sein des régions européennes. Et après, sous les gouvernements nationalistes, l'Écosse s'est vantée comme un État européen en devenir. Le futur 28e État d'Europe. Donc, tu vois, que ce soit comme une super euro-région ou un futur 28e membre, la thématique européenne, elle a toujours été présente. Et alors que ce soit chez les nationalistes, chez les travaillistes, chez les verts, chez les libéraux-démocrates, et même chez les conservateurs, il y a eu ce consensus qui fait que la vocation de l'Écosse est d'être en Europe. De même qu'il y a eu un certain consensus sur la question migratoire, sur l'idée que, et écossais, celui qui vient en Écosse, qui s'installe en Écosse, que l'Écosse est multiculturelle, et que, aussi, l'Écosse a besoin d'immigrants. L'économie écossaise en a besoin, la population écossaise est vieillissante, elle est déclinante, le marché du travail a besoin d'étrangers. Donc il y a ce consensus qui s'est créé. Bon, alors est-ce que Reform va vraiment briser ce consensus? C'est ça la question. Parce qu'on sait que Reform est, au moins en Angleterre, est anti-européen, puisque c'est parti de Farage, du Brexit. Bon, et anti-immigration. Bon, on va voir. Pour continuer sur l'Écosse, sur l'Europe, depuis le référendum, alors qu'est-ce qui s'est passé en fait suite au référendum sur le Brexit, les nationalistes ont cru que en fait la sortie du Royaume-Uni de l'Europe allait être un pas décisif pour le mouvement pour l'indépendance. Que ça allait booster leur forme. Ça n'a pas été le cas. En fait, la situation s'est stabilisée. Mais ce qui s'est passé dans l'opinion, si tu veux, c'est que il y avait une polarisation pro-indépendance, pro-union, 50%. Il y a une polarisation pour l'Europe, Remain contre l'Europe, Leave. Là, c'était deux tiers en tiers. Aujourd'hui, il y a une polarisation très très claire de l'opinion qui est, tu as d'un côté les pro-indépendance pro-européens, c'est les mêmes, tu es pro-indépendance, tu es plutôt de centre-gauche, et tu es pro-européen. Et tu as les unionistes, qu'on peut classer plutôt à droite, et qui ont voté Remain. Donc ce double clivage aujourd'hui n'en fait qu'un dans l'opinion, hein, tu vois. Voilà. Bon, et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'interrogations sur le Brexit. Bon, il y en a en Angleterre, hein, ce qu'on appelle le regret, les regrets par rapport au Brexit. On n'aurait pas dû faire le Brexit. Finalement, vous avez entendu, il n'y a pas très longtemps, John Major, par exemple, l'ancien Premier ministre conservateur, qui a dit pique-pendre du Brexit en termes économiques. Il a dit c'est une catastrophe économique, le Brexit, pour le Royaume-Uni. Donc s'il dit ça pour le Royaume-Uni, pensez bien que les nationalistes écossais, les nationalistes gallois, ils vont exploiter cet argument. Parce que eux, en plus, ils étaient plutôt pro-européens. Ils sont plutôt pro-européens. Donc, pour terminer la question de Reform, je n'ai pas complètement fini d'y répondre, mais ça va être intéressant de voir si Reform propose et fait une percée en proposant une vision du nationalisme identitaire écossais qui soit un petit peu adverse, opposée de celle qui est généralement admise, consensuelle en Écosse. C'est-à-dire que le nationalisme écossais, c'est un nationalisme inclusif, civique, qui prend le multiculturalisme, qui est ouvert sur les étrangers, qui est pro-européen. Voilà. Alors que Reform propose un peu l'antithèse. C'est-à-dire un nationalisme plus ethnique, différentialiste, exclusif, anti-étranger, anti-Europe. Bon, ils ont fait une percée dans ce cadre-là, dans le cadre de ces élections. Mais on va voir si ça va se confirmer ou pas, ça, sachant que l'électorat est très volatile. Tu vois, il y a 2 ans, il faisait 7% à peine.
Banal comparé à ce qu'on peut s'attendre en regardant un peu ailleurs, pas trop loin. Mais est-ce que vous pensez que c'était peut-être une stratégie très délibérée du SNP de ne pas justement aller frontalement à la réforme? Parce que sûrement, l'argument le plus évident pour étouffer un élan de réforme, c'est-à-dire votre question de l'immigration, peut-être en Angleterre, vous pouvez trouver plus de sympathie avec cette argumentation, mais ici en Écosse, où nous avons des problèmes démographiques. C'est vraiment pas logique d'adopter une telle politique pour limiter l'immigration. C'est absolument